Bonjour à toutes et à tous, Régis Fellu sur Radio Vague. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre chronique d'histoire locale. Souvenez-vous, le mois dernier, on a parlé de la Première Guerre mondiale à Chevilly. Et ce mois-ci, on va aborder un nouveau sujet complètement différent, une autre époque et un autre lieu. On va parler de la bande des chauffeurs d'orgères avec Hervé Fougeron. Bonjour, monsieur Fougeron.
Bonjour Monsieur Fellu, merci beaucoup de m'accueillir.
Bienvenue à Artenay, bienvenue sur Radio Vague. Donc ce sujet des chauffeurs d'orgères, c'est quelque chose de passionnant. Bien souvent, bon, c'est un sujet qu'on connaît, nos auditeurs connaissent certainement, mais pas suffisamment. C'est malgré tout un sujet méconnu parce qu'il y a plein de choses à dire. Il y a des préjugés sur cette affaire d'orgères. Il y a des choses qu'on ne connaît pas suffisamment et donc on va essayer d'aborder un petit peu en détail cette affaire, on va dire, des chauffeurs d'orgères. Monsieur Fougeron, donc, on va commencer à expliquer un petit peu, à se remettre dans le contexte, l'époque, le lieu. Dites-nous un petit peu comment ça s'est passé et comment ça a commencé, finalement.
Alors, bien volontiers. Vous avez parlé de préjugés. Je rebondis tout de suite là-dessus. Il y en a un, et qu'on appelle les chauffeurs d'orgères, alors qu'aucun de ces bandits n'est originaire d'Orgères.
Déjà, oui.
Et qu'aucun crime n'a eu lieu à Orgères. C'est simplement parce que les premiers interrogatoires ont été menés par le juge de paix local, qui était mon ancêtre, Amand François Fougeron, qui voilà. Était juge de paix d'Orgères. Et c'est ça ce qui a valu à la bande son nom.
Et puis le terme chauffeur, c'est aussi un préjugé, quelque part.
Oui, chauffeur, c'est un préjugé, mais ça fait référence quand même à des actes qui voilà. ont eu lieu, hein, puisque en trois occasions, ils ont déchaussé les pieds du malheureux propriétaire pour les pousser au milieu des braises, voilà. et dans certaines fois, même en piquant la plante des pieds d'une pointe de couteau pour activer un peu les aveux.
Voilà, donc on voit bien que c'est une affaire quand même assez sanglante, assez horrible,
oui,
par moments.
Oui, on va voir ça probablement au cours de l'émission, mais c'était souvent assez brutal.
Voilà.
Alors, comment est-ce qu'on connaît tout ce qui s'est passé ? Eh bien, tout simplement, essentiellement, par le script du premier interrogatoire mené par le juge de paix, et ensuite de ça, par toutes les pièces de l'instruction, consignés par le greffier, ont noté toutes les réponses apportées par les bandits. Et durant ce procès, le greffier Leclerc, qui était très impressionné par les faits qui étaient mentionnés, s'est dit qu'il tenait probablement là la trame d'un ouvrage qui aurait un grand succès. Et donc Leclerc, je ne connais pas son prénom, qui était greffier du tribunal à l'époque, est le premier à avoir écrit une épouvantable histoire des chauffeurs d'orgères, qui est un petit peu romancée. On s'en est aperçu après.
Voilà, on verra tout à l'heure qu'il y a eu après d'autres ouvrages qui ont été écrits donc,
absolument.
Par d'autres auteurs.
Mais dont nombre d'auteurs ensuite se sont inspirés, parce que c'était l'une des sources les plus accessibles.
Bien souvent, on réécrit l'histoire en s'inspirant d'un premier ouvrage qui a été publié.
Tout à fait, voilà. Tout à fait. Voilà, donc Leclerc écrit en 1798-99, durant l'instruction et le procès. Ensuite de ça, il faut attendre 100 ans, et un certain Coudremonier écrit ensuite de ça un gros ouvrage. Mais le premier ouvrage, le premier travail sérieux documenté avec en citant les références, c'est celui de François Hureau en 1982, qui a en plus de ça le grand avantage d'être assez synthétique et sur lequel je me suis beaucoup appuyé là, pour préparer notre rencontre. Mmh. Voilà, bien sûr, on a Gérard Boutet qui est bien connu, Philippe Régnier, Louis Bousnard. La Société archéologique de Ré-Loire a publié aussi le travail de François Hureau et puis d'André Zisberg. Et plus récemment, il y a 4 ans, Alain Bouzy, que tous nos auditeurs doivent bien connaître, alors là, a écrit un ouvrage extrêmement complet, il y a un peu plus de 500 pages, fort bien documenté, ouvrage très sérieux sur la bande d'Orgères. Enfin, ça n'est pas exclusivement sur la bande d'Orgères, mais ça lui est en grande partie consacré.
Et c'est intéressant parce qu'en fait, ces différents auteurs ont réécrit cette histoire un petit peu à leur façon et suivant leur style, comme par exemple Gérard Boutet, qu'on connaît bien.
Absolument.
L'a réécrit un petit peu à sa façon. Hein.
Absolument, absolument. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ces bandits ? Dès 1795, c'est donc 6 ans après la Révolution, on mentionne l'existence d'une bande qui tient repère du côté d'Autruy-sur-Juine. Et cette bande, elle est constituée, on pourrait dire aujourd'hui, de SDF, tout simplement, qui ont fui Paris, parce que tous les moyens qui étaient à leur disposition pour subvenir, ne serait-ce qu'à leur alimentation, eh bien, ont été démantelés. Les soupes paroissiales n'existaient plus. La cour des miracles, où ils pouvaient se retrouver et changer des services, avait disparu également. Il n'y avait plus de travail et beaucoup se retrouvaient sans emploi. Donc, tout simplement, poussés par la faim, ils sont venus se servir en province, où c'était plus facile de voler un poulet que rue de Rivoli.
On est en fait dans un contexte de crise économique, on peut dire, où il y a beaucoup de pauvreté. Hein.
Tout à fait, tout à fait.
À la fois dans les villes et puis finalement dans les campagnes également.
Tout à fait. Et c'est ce qu'il explique. Il y a l'un des bandits, Louis Denis, qui dit « La disette du pain m'a obligé de sortir de Paris ». Où une femme qui s'appelle Marie-Agnès Habit, elle dit « J'ai quitté la capitale il y a 3 ans lors de la disette du pain ». Et depuis ce temps, je demande du pain dans la Beauce. Alors, ces va-nu-pieds sont plus ou moins agglomérés, la bande se formant ou se déformant en fonction des occasions.
Ce n'est pas vraiment une bande organisée, en fait.
Ce n'est pas une bande organisée. Et cette bande du côté d'Autruy-sur-Juine, qui était commandée par un type qui a laissé un peu son nom dans l'histoire, Fleur d'Épine. C'était la bande de Fleur d'Épine qui avait recruté un homme plus intelligent que la moyenne, assez bien de sa personne, très costaud, comme lieutenant. Et cet homme s'appelait le beau François.
Voilà,
et
on un a personnage
pas fini,
important.
On n'a pas fini d'en entendre parler.
Juste un détail, Autruy-sur-Juine, donc c'est entre Pithiviers et Étampes, on peut dire
Autruy-sur-Juine, oui, c'est ça, c'est dans le nord-est, c'est même dans le Loiret, ça n'est plus en Eure-et-Loir.
On n'est pas tout près d'Orgères, mais de toute façon, le secteur était assez étendu.
Voilà, et surtout, c'est le bois dans lequel se trouvait leur principal repère.
D'accord.
Voilà. Lorsque Fleur d'Épine, qui est emprisonnée, meurt lors des massacres de Versailles en 1792, parce qu'il est pris pour un notable, donc dans la prison on le trucide en le prenant pour un marquis alors qu'en fait c'était un bandit victime, eh bien c'est le beau François qui prend le commandement de la bande et de cette troupe donc assez informelle et dont des groupes se rapprochaient au moment où il y avait des méfaits à commettre.
Donc là, il y a déjà eu des vols, des crimes dans les fermes.
Alors, il y avait déjà, oui, du temps de Fleur d'Épine, déjà, qu'on appelait la bande à Fin-Fin, les gens la redoutaient et ça avait déjà marqué beaucoup les esprits. Et bien, naturellement, Fleur d'Épine disparue, les choses ne s'arrêtent pas, puisqu'il y a toujours un chef pour organiser les opérations.
Ça sera même amplifié, il y aura encore plus de méfaits qui seront...
Oui, alors, on va voir que ça s'accroît au fur et à mesure où les difficultés économiques s'accroissent. Et certainement, la faim essentiellement est à l'origine de beaucoup des délits.
Alors, en fait, ces bandits, je vous interromps, ils s'imaginaient qu'en Beauce, il y avait beaucoup de fermiers assez riches, et ils pouvaient trouver des trésors.
La Beauce, d'abord, c'était le pays du blé, le pays du pain. Et quand il n'y a plus de pain à Paris, où est-ce qu'on va ? On va chercher du pain là où on le trouve. Et puis, encore une fois, c'est plus facile de chaparder une volaille à la campagne qu'au cœur de Paris. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui... bien évidemment, la sentence du tribunal serait très différente de ce qu'elle a été. Et la plupart de ces gens-là, d'abord, seraient pris en charge par les différentes associations ou organismes humanitaires, ou bien par l'État, et ça n'aurait plus lieu.
Oui, on était dans un autre contexte, c'était une autre époque, évidemment.
Donc beaucoup de ces bandits étaient originaires de Paris, ou en tout cas en provenaient. D'autres étaient des locaux. Et pourquoi des locaux ? Ben parce que, connaissant bien les lieux, ça leur permettait de renseigner les Parisiens et puis de partager, évidemment, les butins. Ce sont des journaliers, des manœuvriers, des colporteurs, des professions qui justifient des déplacements fréquents. Il y a quelques domiciles fixes des artisans ou des commerçants, qu'on appelle les francs, qui, la plupart du temps, font fonction de receleurs. D'accord. C'est ainsi que, chez la bonne mère d'Apreux, on a retrouvé 150 chemises d'hommes neuves, 40 chemises de femmes neuves, 18 draps neufs, un grand nombre d'usagers et 4 superbes lits de plumes. Et bien évident que ça n'est pas la bonne mère d'Apreux qui avait pu acquérir tout ce stock de linge.
Il faut préciser en fait que finalement ces bandits, ils ne recherchaient pas les louis d'or, le coffre-fort, c'était simplement du pain, des habits, des choses très simples.
Ils cherchaient essentiellement de quoi se nourrir, et donc les butins dérobés, la plupart du temps, dans 90% des cas, c'est du linge, des habits, et de la vaisselle. Pourquoi ? Parce que c'est facile à écouler et que les colporteurs, ensuite de ça, quand ils avaient récupéré du beau linge, pouvaient facilement le vendre et avec l'argent, donc, aller acheter de quoi se nourrir.
C'est ça qui nous replace un petit peu dans le contexte de l'époque, d'une extrême pauvreté, c'est que du simple linge, ça avait beaucoup de valeur.
Ah, absolument, et on reviendra dessus parce que vous verrez que les habits tiennent... ont un rôle important dans toute cette histoire. Physiquement, ils ont un certain nombre de traits en commun. Ils sont tous de taille moyenne, environ 1m60 pour les hommes, un peu moins pour les femmes. Beaucoup portent des traces de carence alimentaire. Beaucoup ont des jambes torses, sont bossus, ont des dyssymétries. Certains sont borgnes ou amputés et donc n'ont pas beaucoup d'autres moyens de subsistance que la mendicité ou la rapine. Ils sont jeunes, 80% à moins de 45 ans, et les tenues sont très disparates puisque essentiellement à base de vêtements volés. Voilà. Et c'est ce qui permettra très souvent à la maréchaussée de les repérer et de les confondre. Les vêtements coûtent très cher et s'emparer d'une belle culotte de drap ou d'un bon gilet en ratine permet de se vêtir pendant plusieurs années, à tel point que le livre des signalements que nous avons à Villeprévost, qui était le domicile du juge de paix, ce livre des signalements qui décrit les 310 individus interrogés par le juge Fougeron entre janvier et mai 1798, tous ces personnages sont identifiables par leur tenue qui devient un signe particulier.
D'accord.
Aujourd'hui, on n'imagine pas que quelqu'un qui a commis un méfait garderait le même t-shirt changerait immédiatement, alors qu'à l'époque, quand on avait des habits, on les gardait.
Autre époque, autres habitudes. Je vous interromps juste une minute, monsieur Fougeron. On va faire une petite pause et on se retrouve dans un petit instant.
Très bien.
Merci.